suis un peu en mode stop depuis le 13 novembre. J'arrive pas trop à me projeter, j'y arrive pas du tout.
C'est la peur, cette peur latente qui part pas. Il y a un monstre sous ton lit, quoi, en gros, c'est ça. Il y a un monstre sous ton lit.
Là où je sens les conséquences, c'est l'espèce d'insécurité, mais personnelle. Je doute de tout.
Maintenant, la question, c'est comment réussir à accorder de l'importance à des choses futiles quand on a connu des choses difficiles.
C'était une douce soirée de novembre, une de celles où l'on s'attarde aux terrasses, où l'automne semble ne pas vouloir laisser la rigueur de l'hiver s'installer. Un vendredi soir ordinaire, pourrait-on dire, dans les cafés et restaurants du 11e arrondissement de Paris, bondé comme chaque fin de semaine. On se retrouve à la belle équipe, fêter un anniversaire, on partage un verre ou un dîner entre amis. Avec son amoureux, à la bonne bière ou au carillon, on se presse au Bataclan, au Stade de France. Une soirée d'insouciance. Une nuit d'horreur qui bouleverse, fracasse des milliers de vies. Il y a ces morts, 130, qui ne rentreront pas à la maison. Ces centaines d'autres dont la vie a basculé, marquée dans leur chair ou dans leur âme, et tous leurs proches affolés. 6 mois après, une date symbolique, mais que signifie 6 mois quand le temps lui-même ne s'écoule plus de la même façon? 6 mois après, donc, nous avons souhaité donner la parole à ces victimes, à ces rescapés. Quelque chose s'est-il irrémédiablement brisé? Comment avancer après une telle catastrophe? Chacune, chacun réagit bien sûr avec sa personnalité, avec ses forces et ses faiblesses. Ces 4 témoignages que nous vous proposons d'entendre reflètent chacun une histoire singulière, mais y résonnent aussi des accents universels sur la douleur, la solidarité, la solitude, l'apprivoisement du bonheur. Ma vie après le 13 novembre, c'est un reportage de Sarah Petitbon réalisé par Annie Brault. Et pour en parler avec nous ce soir, 2 invités, Françoise Rudetsky, fondatrice de SOS Attentat, grièvement blessée dans un attentat en 1983 au Grand Véfour à Paris. Vous êtes membre du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes que vous avez fait créer. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et le psychiatre Boris Cyrulnik, père, si l'on peut dire, du concept de résilience, cette capacité du corps et de l'âme à revivre après un traumatisme profond, auteur prolifique, citons notamment Un merveilleux malheur. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous venez de publier chez Odile Jacob « Ivre, paradis, bonheurs héroïques ». Une réflexion sur ces héros qui, écrivez-vous, nous montrent le chemin quand ils parlent des merveilleux malheurs dont ils ont triomphé. Nous en parlerons. Et dans ce studio, à nos côtés, bien sûr, Sarah Petitbon. Bonsoir Sarah.
Bonsoir Marie-Pierre.
Vous avez recueilli les témoignages que nous allons entendre ce soir. Il faut préciser que ces personnes que vous avez rencontrées de nouveau dans le cadre de ce magazine, vous êtes en lien avec elles depuis décembre dernier, lorsque vous aviez réalisé une enquête pour le magazine Polka, une chronique du retour à la vie, parue dans le numéro de ce printemps. Et au fil de ces longs entretiens, débutés quelques semaines à peine après les attentats, eh bien, une confiance s'est instaurée, une relation particulière s'est nouée entre vous et vos interlocuteurs. Et aujourd'hui, eh bien, ils vous ont de nouveau ouvert leur cœur et leur âme.
Oui, ils s'appellent Caroline, Maureen, Fanny et Claude Emmanuel. Ils ont entre 25 et 57 ans et ils ont accepté de nous raconter leur vie d'après. Une vie dans laquelle les repères et parfois les valeurs ont été bouleversés, une vie ponctuée de doutes et d'incertitude face à l'avenir. Une vie aussi dans laquelle les séquelles physiques et psychiques tiennent une grande part. Une vie enfin dans laquelle il faut apprendre à renouer avec une certaine douceur de vivre, de la légèreté. Une fois passé le choc et la sidération, passé aussi l'élan de solidarité et d'empathie nationale sur lequel ils ont pu compter au début, eh bien tous évoquent aujourd'hui un sentiment de solitude face à cette vie qu'il faut maintenant réinventer. Et vous allez l'entendre, pour tous, le chemin de la reconstruction et de la réparation. En un mot, le chemin du retour à une vie normale est encore long.
Et le premier témoignage, c'est celui de Maureen Roussel.
Oui, Maureen, elle a 29 ans et le 13 novembre, elle était avec son mari au Bataclan. Ensemble, ils ont une petite fille de 7 ans qui était gardée par sa grand-mère ce soir-là. Je l'ai retrouvée mi-avril devant la salle de concert où elle était retournée à plusieurs reprises. Je vous propose de l'écouter.
On est passage Saint-Pierre-Amelot. On est devant la sortie du Bataclan. Avec mon mari, nous étions devant le bar et quand le premier terroriste est rentré, nous sommes mis au sol et nous avons fait les morts, forcément, et pendant un quart d'heure. Et le tireur étant à un moment particulièrement près de nous, avoir cette impression que voilà, ça y est, c'est la fin et qu'il n'y a rien à faire. On finit vraiment par accepter l'idée que voilà, on ne sortira pas, on ne rentrera pas à la maison. Ma mère va devoir annoncer à ma fille que ses parents rentreront pas. J'étais convaincue que voilà, on se relèverait pas. Et dans les jours qui ont suivi, voilà, on réalisait encore pas vraiment ce qui s'était passé. Le film repasse en boucle dans la tête, mais on avait l'impression qu'on n'arrivait pas à le comprendre. Et on se retrouve à avoir le téléphone qui sonne tout le temps parce que tout le monde veut prendre des nouvelles et on raconte cette histoire encore et encore. Et après, le vide. Ce questionnement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commence à contacter le numéro, le 08 victime, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'on était vraiment perdus, comme des enfants. Et au fur et à mesure des jours qui passent, on se rend compte que voilà, tout est remis en question. Quand on sort dehors, on se met à regarder partout, on réalise que voilà, ça s'est produit au Bataclan, mais ça peut se produire n'importe où, n'importe quand. On se découvre des paniques incompréhensibles, le métro, les espaces où il y a du monde. Parce que voilà, on sait à quoi ça ressemble en plus que personne, des événements comme ça. Et on a une peur que ça se reproduise, incroyable. Et on sait que tout peut basculer tellement vite.
Et maintenant, Maureen, comment ça va alors?
5-6 mois après, c'est difficile de se rendre compte qu'on est encore... moi, je suis encore énormément fragile et énormément dans les événements. Là, il y a quelques semaines, il y a eu l'arrestation d'Abdeslam, l'attentat à Bruxelles. Et ça m'a fait prendre conscience à quel point les événements étaient encore frais. J'ai l'impression que ça nous fait régresser un petit peu. Ça nous reprojette en arrière. Là, ça fait partie du travail, l'acceptation, peut-être qu'il faille vivre avec, mais en ayant conscience de nos difficultés et voilà, de notre impossibilité parfois à refaire les choses comme avant.
Mais comme quoi, par exemple ?
Moi, je suis assistante maternelle. Je garde 2 enfants à mon domicile. Et donc ces derniers mois, toutes les choses que j'aimais avant se sont retournées, en le sens où le fait d'être chez moi a commencé à m'oppresser, un sentiment d'emprisonnement, alors qu'avant c'était plus sécurisant qu'autre chose. Le côté répétition des tâches et des choses à faire. Avant, ça me plaisait bien parce que tout était calé à la minute. Et après, le stress que ça me provoquait est insupportable. Voilà, j'ai fini par accepter l'idée que pour le moment, c'est plus possible. Peut-être que ça le redeviendra un jour. En fait, il faut accepter l'idée que les choses ne seront plus comme avant. Alors après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles sont maintenant et qu'est-ce qu'on a envie qu'elles soient à l'avenir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Voilà, ça m'a changé. Beaucoup plus que je ne l'aurais pensé. Ça a changé des traits de caractère et ma façon de voir la vie. C'est beaucoup plus de l'ordre du questionnement sur la vie, sur la société, sur la mort, sur mon rapport à ma mort, à la mort des autres. Et la culpabilité du survivant qui sort assez vite, c'est le fait du pourquoi. Pourquoi les autres ont été pris et moi pas? Qu'est-ce qui fait que... je suis là et les autres, non. J'ai travaillé justement personnellement sur cette culpabilité, ça va un petit peu mieux là-dessus, hein, en parlant avec mon psychologue, voilà, ça va un petit peu mieux. Mais maintenant la question c'est comment réussir à accorder de l'importance à des choses futiles, comment profiter de la vie et des petites choses de la vie, d'un café en terrasse, d'un rayon de soleil, de petites choses du quotidien, quand on a vu et quand on a connu des choses si difficiles. Ça, c'est vraiment un travail. Prendre le temps.
La Maureen Roussel, hein, au lendemain des attaques, elle a fondé l'association Life for Paris, justement pour aider les rescapés à sortir de leur isolement, une association dont la vice-présidente Caroline Langlade, âgée de 29 ans, était elle aussi au Bataclan ce soir-là, Sarah.
Vous voyez, quelques minutes après l'intrusion des terroristes dans la salle, Caroline s'est réfugiée dans une loge de 9 mètres carrés avec une quarantaine d'autres personnes. Ils y sont restés confinés pendant 3h30, 3 heures d'angoisse et d'incertitude, au cours desquelles elle a eu le temps de téléphoner à sa mère pour la prévenir et lui demander d'appeler les secours. Peu après minuit, la BRI lance l'assaut final et Caroline retrouve la liberté.
Moi, j'ai l'impression de ne pas être sortie du Bataclan, en fait, tout court. J'en ai pas mal parlé avec mon psy qui me suit. On a tous laissé, je pense, une partie de nous, donc soit un membre de la famille, soit un ami, soit une partie de nous-mêmes, c'est-à-dire notre innocence et notre naïveté. Notre force de vie aussi, parce que je pense que quand on est aussi longtemps aussi près d'y passer, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de nous, en fait, de l'inconscience et de la naïveté qui finit par disparaître. On se sent un peu seul, on sait pas encore trop quoi faire de cette nouvelle vie. On sait pas encore si c'est mieux ou si c'est pire qu'avant. On sait juste que c'est nouveau et que ça a plus rien à voir avec là où on en était le 13 novembre à 21h30, juste avant que ça pète et au moment où tout le monde était heureux et on faisait la fête tous ensemble. C'est différent maintenant, il faut juste qu'on sache quoi faire avec ça, quoi.
Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent?
Je pense que quand on a été confronté à la mort imminente, vraiment en face à face et sur un truc aussi bizarre, parce que je veux dire, personne ne meurt en allant voir un concert de rock normalement ou en allant boire un verre en terrasse. Donc je pense que voilà, d'avoir conscience qu'on peut mourir n'importe où et n'importe quand, ça change beaucoup les choses. Après, je pense qu'on ne peut plus fermer les yeux aussi sur de la violence, sur jusqu'où la violence peut aller et ce qu'elle peut fracasser en nous, en fait. Je supporte plus la bêtise humaine aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Parfois parce que je travaille en travailleur indépendant et que des fois on a des clients qui sont pas évidents et je ne sais pas encore quand est-ce que je vais réussir à reprendre le travail parce que ça me fait peur, quoi. Ça me fait peur de de sortir de moi-même, de m'énerver pour un rien. Je découvre une vraie grande patience dans l'après, mais je suis patiente avec les gens qui ont souffert, mais je suis moins patiente avec les cons, en fait. Donc voilà. Après, dans ce qui a pu changer en moins bien, c'est la peur. Cette peur latente qui part pas, qui a du mal à s'effacer et qu'on traîne avec nous de quand est-ce que ça va repéter. Ça, c'est vraiment une question que moi, je me pose au quotidien. C'est quand est-ce que ça va recommencer? Où est-ce que ça va péter? Qui ce sera? Est-ce que ce sera encore moi? On ne sait pas. Et c'est de ne pas savoir qui est terrifiant, quoi.
Comment se passe le rapport avec l'entourage 6 mois après? Comment les proches, la famille vit votre traumatisme?
On a l'impression déjà que nos proches peuvent pas comprendre ce qu'on a vécu parce qu'on n'a pas envie de leur raconter non plus toute la merde qu'on a vue, tout ce qu'on a vécu, les pensées qu'on a pu avoir, parce que ça fout la trouille. Et puis parce qu'on a l'impression que on sait plus où aller, quoi. On n'a plus de repères, en fait. Je crois que ça pète vraiment les repères et c'est tout le problème.
C'est-à-dire ça pète la...
Tu perds tes repères parce qu'habituellement, tu es un citoyen lambda, autonome, capable de se débrouiller tout seul, machin. Au final, le lendemain, tu te retrouves comme un gamin de 4 ans qui ne sait plus mettre de mots sur ce qu'il a vécu, qui est incapable de parler, qui fait des cauchemars, qui mange plus, qui dort plus. Il y a un monstre sous ton lit, quoi, en gros, c'est ça. Il y a un monstre sous ton lit.
tu sais juste pas où est-ce qu'il est, tu sais juste pas quand est-ce qu'il va venir te croquer les doigts de pied, quoi. C'est une trouille, en fait. La trouille, ça s'explique pas, et la trouille, c'est très compliqué à gérer, quoi. Pour nous, c'est rude parce que, au final, voilà, en fait, on est dépossédé de notre histoire. C'est-à-dire, à partir du moment où t'es victime d'un attentat terroriste, ton histoire devient la grande histoire. Hein. L'histoire de ton pays, l'histoire du peuple qui le compose. Enfin, voilà, tu deviens la grande histoire avec un grand H. Hein. Et donc, en fait, ta propre réparation, ta propre histoire, tout ça, on te dépossède, en fait, totalement de ça. Parce que bah, les médias s'en emparent, la politique s'en empare, tout le monde s'en empare. On a beaucoup entendu dans l'après, bah, ça aurait pu être moi. Et ça, c'est très bizarre d'ailleurs. Ça fait partie des choses qui, moi, m'ont beaucoup marqué. C'est que le 7 janvier, je me rappelle exactement à quel endroit j'étais, ce que j'étais en train de faire au moment où j'ai appris pour Charlie Hebdo. Et au mois de novembre, de plus être du côté du peuple qui gueule « je suis Charlie, je suis en terrasse », mais d'être de l'autre côté, là, ça fait bizarre. Et là, d'un coup, tu te dis « bah ouais, là, ouais, ouais, venez m'aider, le peuple, aidez-moi, là, là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que mon pays me prenne par la main. » Quand t'es victime, si, c'est compliqué, parce que, bah, en fait, ça se voit pas. Donc, au final, t'as rien, bon, bah, tu rentres chez toi, c'est cool, quoi, t'as survécu. Ah, bah, tu devrais être content. T'es entier, t'es pas blessé, ça va, quoi. Ça, on te le dit beaucoup. Non, ça va pas. Je veux dire, quand tu vois les gens qui reviennent du front, va balancer à un militaire qui a vécu la guerre, ah, bah, ça va. Va balancer aux gens qui sont sortis des camps de concentration, ah, bah, ça va, t'es vivant, t'es entier, donc ça va. Non. C'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Tu l'entends ça parfois de temps en temps, comme toi, physiquement, t'as pas eu de blessure, mais maintenant il faut passer à autre chose, il faut tourner la page, tu l'entends ça?
En ce moment j'entends beaucoup, ah mais c'est bon, c'était il y a 6 mois, mais comment ça, t'as pas repris le boulot, mais bah non, non j'arrive pas, je veux dire j'ai un vrai problème de concentration, il y a énormément de gens qui ont des problèmes de concentration, moi je bosse dans un boulot qui est créatif, bah j'arrive pas en ce moment, voilà. Je le disais en rigolant il y a quelques mois, mais malheureusement, c'est encore vrai. Je fais entre autres de l'animation, des trucs pédagogiques, ludiques pour les gamins, genre tout poutou, tout est beau, le soleil brille, il y a des arcs-en-ciel, et d'un seul coup, t'as un lapin qui sort une Kalachnikov et qui bute tout le monde. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, voilà, je suis... En fait, le gros problème qu'il y a, c'est que les gens qui ont vécu un traumatisme aussi lourd, tu ne peux plus lâcher prise après. T'es dans la veille constante. C'est ce qui fait qu'il y a plein de gens qui arrivent pas à aller au cinéma, c'est ce qui fait qu'il y a plein de gens qui arrivent pas à sortir, c'est ce qui fait qu'il y a plein de gens qui arrivent pas à reprendre le boulot. Quand t'es sur tes gardes H24, que tu te demandes quand est-ce que ça va péter ou est-ce que si jamais ça pète à côté de toi, t'auras le temps de t'allonger par terre pour survivre et compagnie, bah c'est pas du lâcher prise, ça. Donc.
Et toi, aujourd'hui, t'as le sentiment de pas réussir à lâcher prise ?
Bah, je galère, quoi. Je sens que c'est très compliqué. On doit faire le deuil de quelque chose, en fait. Le deuil, ça prend du temps. Et puis, faire le deuil d'une partie de soi-même, d'une partie de sa vie, c'est compliqué. Tout comme quelqu'un qui a perdu sa jambe, il faut réapprendre à marcher avec une nouvelle jambe artificielle. Bah, nous, il faut qu'on la réapprenne à vivre avec une fausse innocence artificielle, avec un faux lâcher-prise artificiel. Et c'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu compliqué parce que, voilà, tu passes une soirée au restaurant avec tes amis, tout le monde est... Et puis, en fait, à un moment donné, t'as une pote qui te regarde et qui te dit « Mais putain, pourquoi t'arrêtes pas de regarder vers la fenêtre ?» Enfin, et en fait, tu fais paniquer tout le monde. Bah ouais, je suis désolée. Déjà, je suis là. Donc, soyez contents, quoi. C'est, voilà, c'est tout le truc.
Tu disais, tu fais énormément de choses, etc. T'as l'impression que tu manques de temps pour te reconstruire, c'est ça ?
Je me sens essoufflée, en fait. Je me sens essoufflée depuis le 13 parce que à partir du moment où le premier coup de feu a été donné, ça a été une course en avant. Ça a été une course en avant pour courir, ça a été une course en avant pour se cacher, ça a été une course en avant pour se taire, pour pas faire de bruit, pour disparaître. En fait, c'est ça qui est terrible, on a disparu le soir du 13. On a essayé de disparaître dans cette loge et je pense qu'on a disparu totalement de notre propre vie, quoi. On n'est plus sur nos propres radars. Donc on essaye de se retrouver, et se retrouver c'est cette course en avant, c'est ce besoin de tout faire, de meubler au max la vie pour la remplir, parce que parce qu'on se retrouve face à un vide abyssal en fait, qui est une partie de nous qu'on a perdue, et ce vide abyssal on n'a pas encore la capacité d'y faire face, parce que ça impacte tellement de choses, enfin je veux dire, mon psy m'a dit quelque chose de très juste, il m'a dit vous êtes un oignon, vous avez perdu votre première peau. Là, c'est la nouvelle. Il faut juste attendre qu'elle se durcisse un petit peu pour que vous puissiez savoir quoi en faire et qu'elle vous protège. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis un petit oignon. Il faut juste que ma peau, elle se durcisse un petit peu pour pouvoir faire face. Et puis, on va y arriver. Mais
Et aujourd'hui, tu sais ce que tu veux faire de ta nouvelle peau? Il y a des voyages, des choses comme ça que tu veux faire ou t'es pas encore du tout dans cette projection-là?
J'y suis pas encore parce que quelqu'un qui n'arrive pas à prendre le métro, prendre un avion, on en reparle pareil dans quelques temps. Va falloir que j'arrive. J'ai déjà du mal à sortir à une fête et de me retrouver avec des gens qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. C'est compliqué. C'est compliqué de parler de la pluie et du beau temps pour moi. J'arrive pas. Je me rends compte qu'il y a un vrai décalage qui s'est créé, mais qui est de ma faute. Hein. Mes potes me disent, t'es en boucle. Ouais, je sais que je suis en boucle et j'en suis navrée, en fait. Je suis terrifiée par ça. Je tiens vraiment à dire à mes potes que je suis désolée, quoi. Je sais que je suis pas drôle. Je sais que j'essaye juste de faire avec ce que je peux et je sais que c'est pas évident. J'ai besoin d'eux et j'ai besoin que, même si je suis pas là depuis 6 mois, dans 2 mois, quand ça ira mieux, ou dans 1 an, quand ça ira mieux, qu'ils soient là à ce moment-là. Je suis navrée pour ça. J'ai des potes qui ont eu des bébés que j'ai toujours pas vus. Mais en fait, il faut que j'arrive à leur expliquer que de voir un gamin dans une poussette aujourd'hui, ça me donne envie de chialer parce que je pense à tous les gosses qui ont perdu leurs parents. Voilà, c'est ça qui est terrible. Ça, je crois qu'il n'y a que moi qui peux le comprendre parce que c'est ma tête, parce que c'est ma façon à moi de le voir.
Est-ce que tu as l'impression que tes amis d'avant, ils ne savent pas comment agir, réagir, qu'il y a un fossé, indépendamment du fait que tu es en boucle là-dessus, mais qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre vous?
Ouais, il y a un fossé qui s'est creusé parce que je leur laisse pas la place. Parce que les 3/4 de mes potes, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Et c'est vrai que je l'avoue totalement. Des copains qui vont m'expliquer que la journée d'aujourd'hui, elle démarre mal parce que ce matin, en prenant leur bagnole, leurs pneus étaient crevés et le monde va mal et il y en a ras. Waouh! En fait, ouais, ça va quoi, c'est un pneu crevé. T'as pas failli mourir. Et en fait, non, tu peux pas dire ça aux gens. T'as pas le droit. T'as pas le droit parce que toi c'est ton histoire, mais tu peux pas imposer aux gens que leurs histoires, leurs problématiques, elles sont futiles face à la tienne. Les gens ils sont dans leur vie en fait, et toi t'es en décalage. Et ce décalage là, c'est pas moi qui le crée, il m'est un peu imposé de par ce vécu un peu surréaliste et exceptionnel, on va dire, extraordinaire. Donc il va falloir que je réapprenne à m'intéresser aux petites choses futiles de la vie pour pouvoir réussir à recommuniquer avec mes amis. On parle plus le même langage parce que je me suis retrouvée murée dans un truc, murée dans ma souffrance, murée dans ma perte de repère, dans un monde que je reconnais plus, dans mon appart que je reconnais plus, ma ville que je reconnais plus. J'ai des sentiments, je sais même pas quoi foutre avec en fait, c'est le bazar quoi. Donc, et puis parce que je pense qu'il y a de la pudeur aussi. Je crois que t'as pas envie de montrer à tes potes à quel point tu souffres, à quel point t'es devenu fragile. Parce que personne n'a envie d'être fragile. On n'est pas dans une société où être fragile, ou être suivi par un psy, ou pleurer, c'est acceptable. On est dans une société où il faut être fort. Je peux être forte, mais je suis pas que. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui.
Voilà, on a entendu beaucoup de choses à l'instant, mais ce qui m'a frappé dans ces deux témoignages, c'est cette découverte que l'on a perdu le goût des petites choses du quotidien, de ces choses futiles, nous disait Maureen à l'instant. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Boris Cyrulnik?
C'est vrai qu'après un traumatisme intense comme celui-là, les fonctions psychiques sont sidérées. Alors ce que disent ces témoignages, c'est d'une pertinence très grande, et maintenant la neuroimagerie confirme qu'elles ont raison, c'est-à-dire que après une intense émotion comme ça, on voit que les connexions cérébrales ne fonctionnent plus. Donc neurologiquement, quelque chose est sidéré. Alors elles le disent psychologiquement, mais c'est vrai aussi neurologiquement. Donc effectivement, on ne peut plus s'intéresser, on ne peut plus éprouver de plaisir pour les petites choses de la vie qui font notre plaisir de vivre. Et on ne peut plus l'éprouver. On ne peut le retrouver, ce plaisir, que si on est d'abord soutenu, affectivement, préverbalement par une présence ou verbalement par un travail, et si ensuite on cherche à comprendre ce qui nous est arrivé. Parce que comme l'a dit un témoin, on est dépossédé, on est une chose, il y a une déflagration, on va mourir, on n'est plus un être humain, on se jette par terre, on va mourir, on est une chose, on dépend de l'autre qui ne nous considère plus comme un être humain. Et pour redevenir sujet, plus tard, il faut qu'on s'engage dans une association, dans une relation, dans ce qu'on pourra trouver. Et là, on se remettra peut-être à vivre.
On aura l'occasion effectivement d'approfondir cet aspect-là.
Françoise Roudetsky, comment elle revient, cette légèreté?
Elle revient, il faut le dire. C'est un long chemin. Mais bon, je suis restée, moi, des longs mois enfermée à l'hôpital. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je n'avais qu'une envie. C'est d'aller dans les lieux publics, d'aller dans les restaurants, puisque j'avais été victime aussi dans un restaurant où je faisais la fête avec mon mari, retourner dans les lieux publics, retourner faire ses courses dans un supermarché, découvrir des nouveaux produits au bout de plusieurs mois, plusieurs années, qui étaient mises sur le marché, retourner au cinéma, voir des amis. Ça revient, c'est un long chemin, mais c'est vrai qu'aussi en s'occupant des autres, on se reconstruit soi-même. Et Maureen et Caroline, que j'ai rencontrées, sont sur cette voie-là. Et je les aide dans le cadre de leur association, parce qu'il faut aider les autres. Il faut d'abord qu'ils se reconstruisent ensemble et qu'ils s'ouvrent sur les autres. Et je les trouve formidables et je suis sûre qu'elles trouveront les voies et que tous ensemble, et c'est ça la solidarité, ça doit s'exprimer aussi par les proches, l'entourage, qui forcément ne comprend peut-être pas. Certains vont se plaindre d'entendre toujours en boucle la même chose. Eh ben oui, écoutez la même chose, écoutez en boucle. Soyez présents, taisants ou actifs. Et puis aider les autres à retrouver le chemin de la futilité de ces soirées entre amis.
Et c'est ce soutien-là qui permettra de le faire. Il y a effectivement ces blessures de l'âme, donc cette légèreté perdue. Puis aussi les blessures physiques. Hein. Sarah, parmi les rescapés que vous avez rencontrés, Claude-Emmanuel triomphe. Il était attablé, lui, à la terrasse de la Bonne Bière lorsque les tireurs ont ouvert le feu.
Oui, il a reçu plusieurs balles de Kalachnikov avant de s'écrouler à terre. Le nerf sciatique sévèrement endommagé. Les semaines qui ont suivi ont été ponctuées d'opérations, de longues plages de repos forcé, en position allongée. Un calvaire pour cet ancien homme pressé, fondateur d'une structure de réflexion sur le monde du travail. Claude-Emmanuel marche désormais sans béquille et grimpe presque sans problème les trois étages qui mènent à son appartement du 11e arrondissement. Aujourd'hui, seul un léger boitement laisse encore entrevoir ce qu'il a vécu.
J'ai découvert une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à être aussi fatigué. Pas fatigué un jour, fatigué structurellement, on va dire. Et je me disais, sorti de l'hôpital, j'avais plutôt une bonne énergie, ben, j'avais pas pensé qu'il fallait que je me repose beaucoup. Et comme je suis plutôt du genre hyperactif, voilà. Même si j'ai l'impression d'avoir divisé mon rythme d'activité par 10 ou par 20, ben parfois, je m'aperçois que c'est encore un peu beaucoup. J'en ai beaucoup parlé avec mon médecin, la psy, ma kiné, et elle s'étonne de mon étonnement. Mais bien sûr, votre corps a besoin de... Enfin, je veux dire, vous vous rendez pas compte de l'énergie qu'il a déployée? Eh bien non, je ne me rendais pas compte de l'énergie qu'il avait déployée. Et je m'en rends compte maintenant. J'ai toujours l'impression que mon corps m'avait obéi à peu près au doigt et à l'œil jusqu'à présent. Et là, ben, c'est un peu un renversement de perspective. C'est-à-dire que je suis obligé de l'écouter beaucoup plus que je l'écoutais précédemment. Il n'y a rien de tragique là-dedans, il faut juste... C'est juste que quand on n'est pas habitué, voilà, c'est troublant. C'est troublant. Avant, je vivais au rythme d'un emploi du temps qui démarrait quand même à peu près à 8h du matin et terminait à 20h30 le soir. Et je peux vraiment dire, il y avait même des moments où je ne pouvais même pas répondre à un SMS parce que ce temps-là était compté. Là, je suis tout à fait dans autre chose. J'ai quand même repris un agenda. Ne serait-ce que pour ne pas oublier des choses, je m'aperçois que j'oublie beaucoup de choses.
Ça vous arrivait, ça, avant, d'oublier des choses? Vous étiez comme ça, ou vous pensez que c'est une conséquence du traumatisme, finalement, du 13 novembre?
Je pense que c'est une conséquence. Comme certains troubles du langage, le fait de ne plus trouver ses mots. Je me souviens parfaitement, à deux moments, ça m'avait même affolé. Ouais. Je voyais des échalotes devant moi, et je n'arrivais pas à dire échalote. Il y avait des tas d'autres mots qui passaient dans ma tête, mais pas celui-là. Je me suis fait faire un bilan orthophonique parce que vraiment, ça, je me disais, qu'est-ce qui va pas? Et puis, on me dit, tout va bien, il y a juste, il vous manque juste la niaque et l'énergie et ça explique beaucoup de choses. Donc, je suis à la recherche de la niaque et de l'énergie. Et j'en viens au 13 novembre. J'avais prévu depuis très longtemps de mettre fin à mes fonctions de patron de cette association que j'avais contribué à créer. Et je n'avais pas encore d'idée claire sur ce que j'allais faire à l'avenir. Là, il y a eu une espèce de... Alors, non seulement ça a rebattu des tas de cartes, ce qui est pour moi la vie, les principes, etc. Mais vous voyez, avant le 13 novembre, j'avais déjà conscience que, par exemple, la question des banlieues et de la relégation des territoires était un enjeu fondamental pour le pays. Mais je le voyais du point de vue de l'analyste, de l'observateur, de celui éventuellement qui écrivait de temps en temps un article dans les sites, etc. Mais là, je me suis dit, non, je voudrais faire quelque chose pour d'abord que la fabrique française de djihadistes arrête de tourner. Il faut vraiment s'en occuper, parce qu'autrement, la fabrique va continuer à tourner et elle va continuer à faire très très mal. Et ça, pour moi, c'est intolérable. C'est quelque chose qui me... Je sais pas, qui me touche dans ma tête et dans mon... dans ma chair, dans mon cœur, je sais pas comment le dire. Et puis je peux pas laisser passer ces balles comme ça. C'est... Vous voyez, je n'éprouve aucune haine pour des gens qui sont par ailleurs des assassins, enfin, pire que ça. J'ai pas envie de répondre par la... vengeance, j'ai plutôt envie de répondre par l'action, quoi. Comment faire au moins contribuer à ce que ça se reproduise plus, quoi. Est-ce que c'est de la barbarie à l'état pur? Vous savez, je me dis toujours, aussi parce que je crois que je m'en sors pas trop mal physiquement, que ce 13 novembre m'a offert des choses, je dis bien m'a offert des choses incroyables.
Qu'est-ce que vous retirez alors de ce qui s'est passé le 13 aujourd'hui? Vous donniez l'expression de Boris Cyrulnik, le titre de l'ouvrage, Un merveilleux malheur. Est-ce que c'est de ça dont il est question?
Ah, c'est parfaitement de ça dont il est question. D'abord, j'ai vécu des choses merveilleuses. D'abord, l'extraordinaire soutien de mes amis, même de gens dont j'avais jamais imaginé qu'ils seraient aussi proches, ça a été... non seulement extrêmement émouvant, mais extrêmement portant. Je vois aussi d'autres choses qui ont changé. Je viens d'une famille où les relations sont pas très simples, on va le dire comme ça, gentiment. Ce qui s'est passé, notamment du côté de mes frères et sœurs, ça m'a énormément touché. Enfin, ça a transformé quelque chose. Pour moi, il y a un avant et un après. J'étais pas sûr de pouvoir leur dire à chacun que je les aimais tous et toutes. Mais je les aime aujourd'hui, toutes et tous. Voilà. Alors, je redis tout ça. Je suis pas sûr que je vous dirais tout ce que je viens de vous dire si j'avais été au Bataclan. J'y avais assisté à cette boucherie. Je me souviens notamment d'un patient que j'ai rencontré à l'hôpital Percy qui, en termes de blessures, n'est pas beaucoup plus durement touché que moi, mais qui, en termes psychologiques, il est dévasté. Et je lui parlais de mon absence de haine, et lui, il dit, eh bien, moi, j'ai des torrents de haine et de colère. Je me souviens encore de son expression. Ça m'avait... bousculé, quoi. Mais je n'ai pas vécu ce qu'il a vécu, même si, je ne sais pas encore... Il n'est pas totalement exclu que j'ai des séquelles quand même de tout ça, et que je ne retrouve pas ni la mobilité de ma jambe et de mon pied au niveau où elle était avant. Mais globalement, je m'en tire bien. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui me permet d'être aussi, entre guillemets, positif.
Et psychologiquement, psychiquement, est-ce que vous avez encore des séquelles, des traumatismes? Comment ça va aujourd'hui de ce point de vue-là? Est-ce que vous avez peur en sortant dans la rue, en prenant le métro? Est-ce que ça se pose, ou quand vous allez dans un café, ou ça se pose pas pour vous?
C'est pas là que je sens les conséquences. Comment vous dire? J'ai pas peur dans le métro. J'y pense pas. On va dire, je n'y pense pas. Par contre, là où je sens les conséquences, c'est l'espèce d'insécurité, mais personnelle. Je suis beaucoup moins sûr de moi. Alors, j'ai certains de mes amis toujours aussi élégants avec moi qui me disent que ça me fait pas de mal. Non, mais ils ont raison. Mais il y a des jours où c'est pas très facile à vivre. Je doute d'absolument tout. Voilà, il y avait une certaine personne qui était construite en moi, avec une très forte armature professionnelle, mais pas que. Ce serait sans doute trop fort de dire que cette personne a explosé le 13 novembre, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été touchée. Mais les traversées du désert ne sont pas forcément toujours mauvaises. Je peux simplement dire que c'est dur. Même parfois, très dur.
Vous venez d'écouter le témoignage de Claude Emmanuel, Boris Cyrulnik. Alors, il nous a dit « j'ai vécu des choses merveilleuses », ce qui peut sembler très étonnant pour ce 13 novembre, parce qu'il incarne cette résilience dont...
C'est un facteur de résilience, mais bien sûr, le malheur n'est pas merveilleux, c'est le triomphe contre le malheur qui est merveilleux. Et là, effectivement, il y a des signes, des réactions qui permettent de prédire que ça va déclencher un processus de résilience. Donc c'est pas le malheur qui est merveilleux, c'est la nouvelle vie qu'on est obligé d'organiser après un malheur. On a été fracassé, on a été hébété, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on reste hébété. Ce qui arrive souvent, c'est le syndrome psychotraumatique, on ne s'en sort pas. Ou bien on réagit et on se remet à vivre, mais pas comme avant. Un témoin a dit « je voudrais revenir comme avant ». C'est plus possible, elle a été blessée physiquement, blessée psychiquement, blessée socialement, relationnellement. Comme ces deux femmes expliquent très bien, les autres ne réagissent pas, ne comprennent pas, ils se mettent pas, il n'y a pas d'empathie, ils se mettent pas à la place de ces blessés. Mais elles peuvent reprendre vie, probablement elles vont reprendre vie, mais pas une vie comme avant. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas intéressant, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas utile, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un combat, il y aura une bagarre, mais ce ne sera pas la vie comme avant.
Il faut accepter cette perte d'une partie de soi ou de cet autre, l'éruption de notre en soi.
Oui, mais dans le réel, la blessure, le coup, on l'a reçu. Ça ne nous sera jamais rendu. Les morts, ils sont morts. Ils ne reviendront jamais. La blessure, on va se réparer physiquement comme pourront les médecins ou les kinés. Mais l'autre blessure, celle qui est dans le cerveau, parce qu'on voit maintenant des traces cérébrales, on voit que un impact comme ça, ça circuite des zones dans le cerveau. Donc il y a une trace dans le cerveau. Et d'ailleurs, les témoins ont très bien dit, je suis devenu sensible à d'autres choses. Et même, ça me rappelle un peu ce que disaient les enfants libanais. Il y a eu 1 million de petits Libanais qui sont venus vivre à Paris après les 16 ans de guerre civile. Quand il y avait une pétarade de voiture, les petits Libanais plongeaient sous la table et tout le monde riait. Ils avaient une réaction adaptée à la guerre, alors que ceux qui riaient ne comprenaient pas pourquoi ils plongeaient sous la table. Eh bien, c'est pareil. Quand on a reçu un événement, un impact dans le corps ou dans l'âme aussi violent, les choses n'ont plus le même goût qu'avant. On ne perçoit plus le même monde, mais on peut se remettre à vivre. Il faut travailler à se remettre à vivre avec le soutien affectif des autres et avec un travail psychologique et social.
François Zrudetsky, vous opiniez à plusieurs moments de cette analyse.
Oui, mais Emmanuel triomphe, il triomphera forcément. C'est dans ses gènes de son état, il se reconstruira. Nous avons, je ne le connais pas encore, nous avons un ami commun, Jean-Yves, qui travaille sur la notion du temps. Et avec le temps, il surmontera, il s'intéressera d'autres choses, puisque déjà c'était prévu avant l'événement. Et ces personnes ont besoin d'une reconstruction, comme vous le disiez, mais globale. Il ne faut pas saucissonner une victime. Il faut la prendre du point de vue de son physique, de son psychisme, de sa vie sociale, de sa vie professionnelle, sa vie affective. Et c'est vrai que déjà, malheureusement, on voit que du côté affectif, il y a des couples qui se brisent, il y a des liens qui se brisent, il y a des incompréhensions. Donc, il faut que je dirais que toute la société travaille un petit peu sur ce regard que nous portons sur les autres, comme sur le handicap. Je suis lourdement handicapée. Je dirais que moi, ce qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est ce handicap en tant que femme, en tant que lourdement handicapée, où j'ai besoin d'être aidée. Et également, je pense à mon mari qui est avec moi ce soir-là et qui culpabilisait parce qu'il a choisi l'endroit, comme certains ont choisi d'acheter des places pour le spectacle du Bataclan ou choisi de fêter son 25e anniversaire comme Jessica avec ses amis à la Belle Équipe. Et tous ses amis sont grièvement blessés, dont un a été est décédé. Et donc cette culpabilité que certains peuvent porter, que mon mari a portée.
Et il y a cette
douleur. Je peux vous dire que lui, parce qu'il a refusé cette aide, et que peut-être nous n'avons pas su, nous, dans son entourage, aider, il s'est laissé aller. Parce qu'un homme fort et costaud, ça ne veut pas toujours accepter d'être aidé.
Mais vous nous offrez une excellente transition, Françoise Rudetsky, avec le témoignage que nous allons écouter à présent, puisqu'effectivement, il y a l'entourage qui est aussi blessé et que l'on ne reconnaît pas forcément comme tel.
Oui, j'ai rencontré Fanny Lacoste, elle a 25 ans. Elle est la compagne d'Adrien, grièvement blessé au café La Bonne Bière. Le jeune homme de 27 ans a perdu un œil et a subi l'ablation du lobe frontal droit et d'une partie du gauche. S'il peut marcher et parler, accomplir les gestes du quotidien, il doit rééduquer une partie de son cerveau pour pouvoir à nouveau prendre des décisions et réaliser même ce qui lui est arrivé. Pour cela, il peut aussi compter bien sûr sur Fanny qui l'accompagne au quotidien dans ce long travail.
Alors maintenant, c'est vrai que j'arrive à m'exprimer, à parler du sujet. Donc Adrien a été, c'est mon compagnon, il a été grièvement touché à la tête lors des attentats du 13 novembre. Il était dans le café La Bonne Bière. Il a été touché par les premières balles. Comme il est tombé dans le coma directement, il était inconscient. Donc il a eu beaucoup de chance parce qu'il était avec des amis. Et une amie à lui a insisté très lourdement. Elle va rigoler, mais c'est vrai, elle a insisté très lourdement pour qu'on s'occupe de lui. Parce qu'au début, on lui avait mis un drap sur le corps en pensant qu'il n'était plus là. Et en fait, elle était persuadée qu'il respirait. Elle voyait sa narine bouger. Donc... quand les pompiers sont arrivés, elle a dit aux pompiers, je vous en supplie, il faut que vous vous occupiez de mon copain. Je suis sûre qu'il respire, mais il y a plein de gens, il y a plein de gens blessés. Il y en a, c'est au bras, à la jambe qui vous parlent. Mais lui, il ne peut pas vous parler, mais moi, je sais qu'il est vivant. Le pompier a dit, bon, écoutez, madame, vous nous laissez travailler. On va s'occuper de lui, mais il faut que vous partiez maintenant, il faut évacuer. Et elle est partie. Et quand elle est partie, elle a entendu le pompier qui a soulevé le drap et qui a dit, putain, les mecs, en effet, il est vivant. Donc voilà, c'est quand j'en parle, je suis encore un peu émue, c'est normal, de se dire qu'il y en a d'autres qui malheureusement n'ont pas eu la chance qu'Adrien a eue. Ça aurait été bien que ce soit pour d'autres personnes pareilles, quoi.
Et ça, tu y penses encore 6 mois après, tu penses encore aux autres blessés, aux autres familles, aux gens qui sont
un peu dans la même situation. Il n'y a pas un soir où je m'endors sans penser aux blessés qui sont encore en train de se battre comme Adrien. Avant de m'endormir, j'ai toujours cette pensée. Et ça, depuis 6 mois. Je pense que ça durera encore longtemps parce qu'on ne peut pas oublier, on peut juste avancer. Il faut essayer d'avancer avec ça.
De quelle manière, alors, vous avancez tous les deux? Comment se passe votre quotidien, votre vie quotidienne?
Bon, on n'a pas vraiment retrouvé notre vie d'avant. Hein. Ce n'est pas encore d'actualité. Entre l'hôpital, après, il y a eu l'hôpital de jour. Ce qui est dur, en fait... Depuis qu'il est revenu à l'appartement et qu'il est passé en hôpital de jour pour la rééducation, ce qui est dur, c'est de vivre avec ce décalage entre ce que lui a vécu et ce que nous, on a vécu. Donc, quand on lui disait qu'il s'était pris une balle dans la tête, il pensait qu'on lui mentait. Il n'arrêtait pas de me dire. Face au médecin, il faisait comme si j'avais raison, pour me protéger moi, pour pas que je passe pour une idiote. Et dès que les médecins partaient, il disait mais tu me pipotes, c'est pas vrai, enfin... Je peux pas m'être pris une balle dans la tête, sinon je serais pas là, quoi. Donc, c'est un truc que je dois gérer aussi, en plus, moi, émotionnellement, parce que c'est dur de voir qu'il est pas du tout sur la même longueur d'onde que nous, quoi. Il y a un psy qui travaille avec sa maman, sa maman parle beaucoup avec lui, et le psy lui a dit, mais en fait, votre fils est en train de se réveiller petit à petit. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a, c'est que... Il a été touché le 13 novembre, il y a 6 mois qui se sont écoulés, et lui, comme ça a été un traumatisé crânien sévère et que son cerveau a été touché, tout doucement, les pièces du puzzle commencent à se recoller. Il va l'assimiler petit à petit, et peut-être qu'il prendra plus conscience des choses avec le temps, mais c'est quelque chose qui va être long.
Et donc comment ça s'organise au quotidien? C'est quoi votre vie d'aujourd'hui?
Alors depuis que j'ai repris le travail en mi-temps, je m'adapte vraiment en fonction de lui. Donc quand il a la rééducation l'après-midi, moi je reste là le matin pour le stimuler. Et là, depuis qu'il est retourné en hospitalisation complète du fait de sa dernière opération, je travaille les matins et les après-midi, je suis avec lui à partir de 15h quand les visites sont ouvertes parce qu'il a besoin d'être entouré. Donc, c'est mon devoir d'être là tous les jours.
Et comment ça va, toi ?
Ça va, ça va beaucoup mieux. Après, je ne peux pas dire que ça va, que c'est la grande forme. Hein. Ma vie, c'est un peu... Je suis un peu en mode stop depuis le 13 novembre. Les restos que je fais, c'est avec mes parents pour me changer les idées. J'ai dû faire, en comptant Noël, jour de l'an, j'ai dû faire 3-4 soirées. Et plus tard où je me suis couchée, ça devait être minuit et demi après avoir souhaité la bonne année. Mais j'arrive pas à me replonger tant qu'il est pas... Je peux pas dire sorti d'affaire, mais tant qu'il est pas de nouveau bien, j'arrive pas à faire autre chose. Donc voilà.
Et toi, tu te vis comme victime ?
Alors déjà, je suis aidante vis-à-vis d'Adrien. Je me sens aussi un petit peu victime dans le sens où je subis depuis le 13 novembre quelque chose de pas normal. Et aussi victime dans le sens où moi, j'étais au Stade de France le 13 novembre. Enfin, on n'a vraiment pas eu de chance tous les deux. Lui à la bonne bière, moi au Stade de France... Donc oui, victime, aidante et aussi aidante, pas vis-à-vis que de mon copain, parce que là j'ai pas trop le temps avec les hospitalisations encore, mais j'essaye de m'investir et d'aider un peu l'association Life for Paris. J'aimerais faire plus, je ferai plus quand j'aurai davantage le temps, quand Adrien sera davantage remis sur pied. Ça me tient à cœur d'aider, mais pas que mon entourage proche, aussi les autres. Parce qu'on est, malheureusement, on est nombreux et la solidarité, l'entraide, je pense que c'est la meilleure des solutions face à ces actes-là.
T'as de la colère, comment tu l'as analysé tout ça ? Ce qui s'est passé ?
Je sais pas si c'est bête à dire ou pas, mais non, j'ai pas du tout de colère. Dès le début, j'ai eu aucun sentiment de colère. Je suis juste triste en fait.
Et comment tu vois l'avenir ? Comment vont se passer les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années ?
J'arrive pas trop à me projeter, j'y arrive pas du tout. Ça bouscule beaucoup de choses, je vois la vie très différemment. Même au niveau de mon travail, j'espère que j'ai retrouvé la motivation, j'ai l'envie, mais c'est pas que je vais pas dire que mon travail, j'ai l'impression que je sers à rien, mais j'ai beaucoup plus envie de faire des choses utiles humainement. Oui, vraiment le côté humain, j'ai envie de développer ça. Je me rends compte que ça me tient à cœur. J'ai toujours été quelqu'un de très sensible à tout ce qui se passe, mais là, ça m'a encore plus ouvert ce côté-là, dans le sens où j'ai envie de participer, d'aider, de... Enfin, je sais pas, on verra comment ça va se passer. Mais sinon, notre vie à tous les deux, c'est... j'essaye qu'elle soit comme avant, même si on sort plus depuis quand il est rentré là, à l'appartement et qu'il est passé en hôpital de jour... On reste tranquille à l'appartement. Les week-ends, on va se balader quand il fait beau. On a beaucoup de monde aussi qui vient et ça, c'est vraiment très, très utile et très appréciable. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui est aussi dur, même si on est bien entouré, en fait, on se sent seul. On se sent seul parce que les autres, ils continuent à faire leurs activités, à mener leur vie. Et nous, pour le moment, non. Pour le moment, c'est en mode stop. Ça reprendra, j'espère, vite et plus tard. Mais pour le moment, on attend. On laisse le temps faire.
Comment ça se passe au niveau administratif, alors, en termes de fonds d'indemnisation, de circuit administratif ? Comment vous gérez les choses ?
Donc, c'est moi qui gère tout pour Adrien. J'essaye de faire au mieux. Mais je vous avoue que c'est pas évident. Je ne veux pas dire que c'est beaucoup de travail, mais c'est un poids en plus parce que Adrien, il ne peut pas gérer tout ça. Enfin, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur ça. On ne se rend pas compte que les familles de victimes, les blessés, en fait, on n'a pas la force. On la trouve, la force de gérer l'administratif. Mais c'est quelque chose, c'est un poids supplémentaire à gérer. J'ai des journées très chargées là depuis que j'ai repris le travail. Je me lève à 7h, je rentre de l'hôpital vers 10h, 9h30, 10h. Et une fois que j'ai mangé, que je me suis installée un peu devant la télé, je me pose et des fois je pense et je me dis, comment on fait quoi? Comment on fait pour, comment on arrive à tenir le coup?
Françoise Rudetsky, les proches des victimes, est-ce que ce sont des victimes et reconnues comme telles aujourd'hui, à part entière?
Alors, je vais utiliser un terme juridique épouvantable, ce sont ce qu'on appelle les victimes par ricochet. Ce sont bien sûr des victimes collatérales qui doivent être prises en charge au niveau d'un suivi psychologique, social, et que, au fond, garantie des victimes d'actes de terrorisme, donc, que j'ai fait créer en 86, ce sont des victimes reconnues. Donc, leurs soins peuvent être pris en charge. Une partie par la sécurité sociale et s'il y a une différence à payer, le fonds de garantie peut leur permettre d'avoir un suivi médical et de le financer. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que ce fonds de solidarité peut permettre aux victimes d'aller sur le chemin de la résilience. Il y a cette solidarité de l'entourage, il y a le travail formidable que font les médecins, les kinés, les psychothérapeutes, les ergothérapeutes. Je suis toutes les semaines à l'hôpital des Invalides, l'hôpital militaire, où j'ai rencontré ce couple formidable. Ce travail-là, il faut aussi prévoir de leur financer une reconversion. Beaucoup de ces victimes amputées, blessées de la face, que ce soit pour Charlie, pour l'hypercachère ou pour le Bardo, victime française à l'étranger, ou les victimes du 13 novembre, il y aura une reconstruction, un repositionnement professionnel et social que le fonds de garantie doit financer pour aider à aller sur ce chemin de la résilience.
Françoise Rudetsky, on l'a entendu, la plupart de ces rescapés ne sont pas seuls, ils semblent même très très bien entourés, et pourtant ils ressentent un profond sentiment d'isolement. Comment est-ce que vous expliquez cela et puis comment y remédier?
Oui, parce qu'il y a ce sentiment d'incompréhension, cette culpabilité du survivant, qui a été bien décrit. Mon mari avait ce sentiment, puisqu'il avait été très peu blessé. Il ne voulait pas se considérer comme victime, comme Fanny ne veut pas accepter d'être qualifié de victime par rapport à Adrien, qui effectivement est très blessé. Moi, ça ne me dérange pas que des gens ne veulent pas se sentir victime. Je ne veux pas mettre d'étiquette, justement, sur ces personnes-là. Celles qui ne veulent pas se sentir victime, il ne faut pas les forcer à se considérer. Mais il faut trouver d'autres termes et il faut les aider. Et je crois que l'associatif, la création d'une association comme Life for Paris, comme SOS Attentat, m'a permis, moi, de cheminer vers le chemin de la résilience. Également, l'écriture, pour certains, c'est pas donné. Moi, quand j'ai écrit Triple Peine, ça m'a aidé. Et je pensais aider aussi mon entourage à travers ce livre. Et ce qui est très touchant, c'est que Caroline, qu'on a entendu tout à l'heure, me dit que mon livre l'aide beaucoup dans ce chemin de la reconstruction, de la résilience. Alors certains vont se mettre à l'écriture, peut-être à de la peinture, à de la sculpture, et aux Invalides, il y a vraiment un travail formidable et beaucoup de choses qui sont proposées. Et puis il y a ce fameux mémorial.
Chacun finalement trouve sa voie dans une action, dans une association.
L'association peut aider.
Et puis il y a aussi peut-être le regard de la société. Vous en parliez tout à l'heure, Brice Cyrulnik. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu frappé dans un des témoignages quand elle disait on se sent dépossédé de son histoire, les médias s'en emparent. Mais est-ce qu'au contraire, il n'est pas nécessaire d'être dépossédé de cette histoire, que la société la reconnaisse comme faisant partie de la grande histoire, peut-être, pour l'accepter, se reconnaître comme victime et peut-être se reconstruire. Est-ce que finalement cette dépossession ne peut pas être bénéfique si c'est pour une reconnaissance nationale ou internationale qu'on a vécu quelque chose de terrible?
Oui, alors ça dépend de la signification qu'on attribue au mot dépossession. Quand on est agressé soudainement par l'impensable, des centaines de morts, le sang des blessés en une fraction de seconde, c'est pas pensable. C'est le traumatisme dans sa définition. On est dans la mort et on se demande même si on n'est pas mort soi-même. Alors, comme dit l'explique Françoise Roudetsky, le mot victime a une connotation juridique qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Il y a aussi, moi j'emploie le mot cabossé, c'est-à-dire que c'est-à-dire le coup, on l'a reçu, mais il faut se remettre à vivre si on est soutenu. Et là, comme l'a dit Françoise Roudetsky, on va chercher le soutien si on est auparavant, si avant d'avoir reçu le coup, on a acquis un attachement sécure dans sa petite enfance. Il y a des gens qui ont déjà acquis un facteur de vulnérabilité quand ils étaient enfants, ils tiennent le coup en temps de paix, mais quand arrive le traumatisme, cela aura du mal à déclencher un processus de résilience. Si avant on a acquis cette confiance en soi parce qu'on avait une famille, parce qu'on savait parler, parce qu'on avait une culture, ce qui n'est pas le cas de tous les quartiers aujourd'hui en France et ailleurs. À ce moment-là, le coup, on le reçoit, mais on a une probabilité de se remettre à vivre beaucoup plus grande.
Et l'un des témoignages évoque aussi la difficulté à faire état de ses faiblesses dans notre société. Est-ce que c'est difficile d'être une victime dans notre société ?
C'est récent, la notion de victime, elle est récente. Pendant très longtemps, il y avait des victimes dans le réel, mais dans la représentation verbale du réel, c'était des possédés. C'était le mauvais œil, c'était des psychasthènes. Quand le racisme marquait pas seulement la culture nazie, mais la culture occidentale, quand le racisme marquait la culture, on disait que ces gens-là, c'était des faibles, des psychasthènes. Ils étaient de mauvaise qualité biologique. Et c'est seulement à partir de la Seconde Guerre mondiale, d'abord ça a été un peu Freud, puis ensuite la Seconde Guerre mondiale avec la guerre du Vietnam, où on n'a plus giflé les victimes. On giflait, on les considérait comme des sous-hommes. Et à ce moment-là, on a considéré, il y a une chanteuse, Joan Baez, qui a joué un grand rôle dans cette métamorphose de la notion de victime, c'est-à-dire Joan Baez a dit, les victimes ne sont pas coupables. C'est ceux qui sont coupables, c'est ceux qui ont laissé se créer cet événement, ou même qui ont envoyé ces hommes faire la guerre au Vietnam. C'est eux les coupables. Ça n'a pas tout réglé pour les vétérans, mais ça leur a permis d'être entourés, et un grand nombre d'entre eux se sont remis à vivre bien.
Vous faites état de l'évolution de cette notion de victime dans l'histoire, dans votre dernier ouvrage, Boris Cyrulnik, Ivre paradis, bonheurs héroïques, chez Odile Jacob. Alors, bonheurs héroïques, est-ce qu'on peut dire que les victimes qui ont survécu aux attentats sont des héros?
Non, je dirais pas ça. Je dirais que le héros, c'est celui qui désire mourir pour sauver quelqu'un. Or, ces victimes-là ne voulaient pas mourir et ne voulaient tuer personne. Donc, je les présente pas, je les pense pas comme des héros. Mais dans une culture faible, quand il y a une défaillance de l'État, notamment une défaillance culturelle, on voit que très vite la notion de héros réapparaît et les sociétés totalitaires sont des grandes fabriques de héros, que ce soit la fabrique nazie ou la fabrique communiste ou l'inquisition chrétienne. Il y avait énormément de héros, ce qui est toujours un mauvais signe social.
Merci beaucoup à vous, Boris Cyrulnik, Françoise Roudetsky, d'être venu nous aider à décrypter, écouter ces témoignages. Boris Cyrulnik, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru chez Odile Jacob, Ivre paradis, bonheur héroïque. Merci Françoise Roudetsky d'être venue donc nous éclairer. Je rappelle que vous avez participé à créer ce fonds de garantie pour les victimes. C'était Ma vie après le 13 novembre, un reportage de Sarah Petitbon réalisé par Annie Bro à la technique d'Alia. Vous pouvez réécouter, commenter, podcaster ce magazine mis en ligne sur notre site franceculture.fr par Abdellah Kalidrissi.